dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Bien, nous parlons à présent d'un sujet. On va aborder un sujet qui va certainement vous intéresser. Bientôt, c'est la saison, disons la saison sèche tire à sa fin, et c'est bientôt la saison des pluies. Et d'après les experts, pour l'une ou l'autre raison, pour l'autre saison, il existe des précautions à prendre avant d'entreprendre des travaux de construction selon les types des maisons. Alors, quelles sont ces précautions à observer pour construire en saison de pluie? Nous avons en ligne Deschaux Ngandou, architecte. Deschaux, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Alors, bientôt, c'est le retour de la saison des pluies. Alors, pour ceux-là qui ont des projets de construction, à quelle disposition ou quelles précautions doivent-ils prendre?
Oui, bien merci, je dis, construire ne dépend pas forcément de la saison sèche ou de la saison des pluies. C'est-à-dire que la construction, c'est une pratique qui s'exerce à tout vent. Donc, qu'il s'agisse de la saison sèche ou de la saison des pluies, on peut construire. Mais lorsqu'on construit en saison sèche, il y a en amont des avantages qui sont du côté des clients et il y a des inconvénients du côté de maître de l'œuvre ou de l'expert qui réalise les travaux et vice versa. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus avantageux à un client de construire en saison sèche. Pourquoi? Parce que dans la plupart des régions, lorsqu'on construit en saison sèche, il y a un gain sur le plan financier. Les matériaux coûtent moins cher parce que on accède facilement au lit des rivières pour extraire les sables. On accède facilement dans des carrières pour extraire la caillasse, le moellon sans beaucoup de difficultés. Et on n'est pas dérangé par les pluies et les intempéries qui conditionnent plutôt, qui donnent des jours de retard dans la construction. C'est-à-dire qu'on peut réaliser la construction en étant beaucoup plus proche du budget. Mais construire en saison de pluie, c'est une gymnastique qu'un technicien doit apprécier, parce qu'au fur et à mesure qu'il réalise sa construction, au fur et à mesure cette construction est exposée aux sollicitations, c'est-à-dire au vent, aux pluies torrentielles, à tel point qu'il peut déjà être certain à la remise provisoire de l'ouvrage de se frotter la main pour dire que non. Mmh. Cet ouvrage a subi beaucoup de sollicitations et que je suis fier d'avoir érigé un bâtiment durable. Mais cela sous-entend un problème, c'est-à-dire que le déploiement du chantier, l'installation du chantier relève du protocole de l'ingénieur, de sa manière de faire, du programme de l'architecte, comment on va faire, où est-ce qu'on va stocker les matériaux pour qu'en cas de pluie, qu'on ne puisse pas connaître un jour de retard, pour que les sables ne soient pas mouillés. Bref, là, relève l'installation du chantier. Mais ce que cela sous-entend, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on constate généralement qu'en saison des pluies, il y a des ravages. Il y a des maisons qui sont ravagées, il y a des cités tout entières qui sont... des toits qui partent, ici vous apprenez que donc voilà, il y a des maisons qui sont écroulées à l'issue d'une pluie torrentielle, ainsi de suite. Nous avions connu cela dans beaucoup de cas. Alors c'est là que se trouve le problème des fonds, et c'est sur ça que je voudrais qu'on focalise notre attention autour de cette émission.
Voilà, donc nous parlons des précautions à prendre pour construire en saison de pluie. Alors, alors, quelles sont les précautions, par exemple, à prendre par rapport au terrain, au choix du terrain, parce que vous avez parlé des cas des inondations, des érosions qui peuvent arriver. Par rapport au choix du terrain, quels sont les préalables à observer?
Bon, vous savez, la construction d'une ville, ou plutôt la construction d'une maison, il n'y a pas tellement de différence dans les cadres de la démarche quand il s'agit de construire une ville ou quand il s'agit de construire une maison. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un plan. Pour ce qui s'agit d'une ville, il y a ce qu'on appelle le schéma directeur. C'est-à-dire qu'on projette la construction d'une ville, d'une cité, dans les temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on s'est dit, d'ici 5 ans, partant de la croissance démographique, cette population sera de quelle taille et que comment on peut étendre la construction pour que chacun puisse se trouver dans des conditions favorables d'habiter. Et à côté de ces plans directeurs, ou ces schémas directeurs, il y a ce que j'ai toujours l'habitude d'appeler les plans d'occupation des sols. Les plans d'occupation des sols déterminent les quartiers, ou plutôt les îlots, ou les endroits où on peut mettre, par exemple, un aéroport, des endroits inappropriés pour construire des maisons d'habitation, des endroits appropriés pour, par exemple, construire des quartiers industriels, parce qu'une ville suppose un quartier commercial, une ville suppose un quartier industriel, une ville suppose un espace de loisirs. Mmh. Ça sont déterminés dans les schémas directeurs et les plans d'occupation du sol. Quand il s'agit maintenant de faire occuper les habitants un îlot, détermine que non, ici, on ne peut que construire des maisons, on ne peut que construire des villas. Et généralement, on évite des régions marécageuses, des régions à forte inondation, on évite que les gens construisent dans ces régions-là. Mais malheureusement, peut-être que ces lois-là, ou plutôt ces mesures, ne sont pas appliquées, ou plutôt ne sont pas suivies par la régulation de l'État ou l'inspection de l'État. On trouve des gens qui occupent anarchiquement des endroits où on ne faut pas construire, mais ils se permettent de construire. C'est ce qu'on appelle des zones de non-édificandes, des zones où on ne peut pas construire des maisons d'habitation parce que ces zones peuvent engendrer à long terme ou à court terme des conséquences désastreuses pour la population. Il y a par exemple les constructions le long des rails. La loi stipule que non, voilà, 15 mètres à gauche, 15 mètres à droite, on ne peut pas ériger des constructions le long du chemin de fer. Mais vous trouvez des occupations anarchiques sur ces endroits-là. Il y a par exemple des endroits où on dit que non, voilà, à côté de l'aéroport, à une certaine distance, 150, 250 mètres, on ne peut pas ériger des maisons d'habitation. Mais curieusement, vous trouvez des gens qui sont en train de construire. Bon, s'il faut revenir sur des sites à problème, oui. Donc au départ, il y a déjà quelqu'un qui se frotte à une difficulté. Donc tu sais qu'ici, on ne peut pas construire, mais se permet d'aller construire. Là, il faut s'attendre à des conséquences plus tard. Parce que vous allez subir la loi des causes à effet. Donc, lorsque nous sommes dans une région tropicale, il pleut très abondamment ici chez nous, et vous vous permettez d'aller construire sur une région marécageuse sans beaucoup de moyens, attendez-vous un jour à des inondations. Donc, bref, il faut seulement conseiller aux gens de se conformer au plan d'occupation des sols qui est établi ou plutôt généré par les services de l'État et choisir les endroits déterminés pour construire les villas et les immeubles.
D'accord, d'accord.
Calme, pour être...
Alors, Deschaux, on retient qu'il est beaucoup plus avantageux de construire pendant la saison sèche, parce que là, les matériaux de construction coûtent beaucoup plus moins cher que pendant la saison pluvieuse. Nous avons un premier auditeur en ligne, Arsène, il nous appelle de la Tanzanie, il est à Moussoumou. Arsène, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
En fait, je pose à notre ingénieur la question de savoir, est-ce que la construction, ça demande une planification quand vous construisez dans une période de saison de pluie ou quand vous construisez dans une période de sécheresse? Vous vous rendez compte qu'il y a un certain moment, on ne pouvait pas avoir toute la somme pour construire à une seule fois, mais à travers la salaire qu'on obtient, ça peut permettre à quelqu'un de construire avec les petits à petits comme en qualité de projet à long terme. Donc la deuxième question que je pose à notre invité, souvent je l'attends, il est au studio, et on pense qu'il travaille pour le compte des éléments congolais. Ce que moi je me demande, j'étais à Bukavu à un certain moment, on est en train de construire la route qui nous réduit la dotée place de l'indépendance jusqu'à Ouvira. Mais ça fait à peine 90 jours. On a déjà seulement construit au moins 3 kilomètres. Et ça prend maintenant la lire, il y a la pluie, il y a des maisons qu'on a vu détruites. Et jusque-là, en tout cas, la population ne voit aucune qualité de la construction. Est-ce qu'on manque l'argent ou bien il n'y a pas une planification? Parce que moi, je sais bien que nous construisons tous et avant de construire, on fait. Donc, c'est ce que j'aimerais demander à notre invité.
D'accord, merci Arsène qui veut savoir si, même avec peu de moyens, comment planifier, faire une planification de sa construction, de son gandou.
Oui, le premier volet de sa question, c'est celui qui consiste à savoir si, avec peu de moyens, on peut construire. Mais le deuxième volet, compte tenu de sa distance, l'audition n'a pas été très très bonne, si vous pouvez me reprendre ça.
Ouais, il a parlé beaucoup plus de la planification, même de la construction des routes. Il a donné un exemple du côté de Bukavu où il a séjourné dernièrement.
Bon, vous savez, là, il y a à boire et à manger. La construction des routes, c'est généralement des infrastructures de grande envergure. Et c'est le domaine de l'État. C'est l'État qui construit les routes et c'est l'État qui jette les ponts. Et ça ne relève pas de la construction citoyenne, si je peux ainsi dire ça. Mais ce que nous constatons est qu'il y a beaucoup d'arrêts des travaux. Pour quelles raisons? Là, il faut interpeller les gouvernements, il faut interpeller, poser la problématique, les problèmes au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on pose, qu'on établisse un certain audit sur les travaux qui sont abandonnés. On les voit à travers la République, il y a des chantiers qui sont osés. Pour quelles raisons? Parce que le gouvernement est bien placé pour donner des réponses à ce genre.
Voilà. Et alors, par rapport à la planification, en saison de pluie pluvieuse, par exemple, il y a certaines personnes qui n'ont pas assez de moyens, mais elles veulent construire quelque chose. Alors, comment planifier tout cela?
Oui, vous savez, la construction, comme on l'a dit, c'est un projet. Construire, c'est s'engager à un projet. Et qui dit projet voit la qualité. Qui dit projet voit les coûts et qui dit projet voit les délais. C'est-à-dire qu'il y a trois piliers qui constituent un projet. Il y a la qualité, il y a le délai, il y a les coûts. Donc avant de pouvoir se lancer dans un projet, même la Bible le dit très clairement, il faut prendre son ardoise, il faut prendre la touche, faire les calculs. Il y a des personnes habilitées à vous accompagner dans cette démarche-là. L'architecte par excellence qui vous accompagne dans cette démarche-là, parce qu'il sait vous dire qu'avec les moyens que vous avez, vous pouvez même en lui présenter un budget, lui dire que non, écoute, je dispose de 40 000 dollars, je vais une construction. Lui va vous dire, écoutez, dans cette région, pour une construction de 40 000 dollars, de confort X, je sais vous faire une maison de tel type. Je sais vous faire cette maison dans X temps. Je sais vous faire cette maison avec tel matériau. Lorsque vous vous accordez sur ces trois piliers du projet, en ce moment-là, il revient à l'architecte de tout faire pour la mise en œuvre de ces projets-là. Donc c'est lui qui vous accompagne. Et il vous accompagne à tout moment, il vous donne des conseils pour que l'écart type ne puisse pas être très considérable. Vous savez, vous pouvez mettre en place 40 000 dollars, et lorsqu'on fait toujours un budget, il y a des extrapolations à gauche et à droite. Soit vous pouvez finir le projet avec 36 000 dollars, soit vous pouvez finir le projet avec 44 000 dollars et une petite exagération. Là, c'est tolérable. Mais si, au fait, vous n'avez pas un bel encadrement, vous pouvez vous retrouver en train de naviguer à volo. Et cela n'est toujours pas la faute de l'architecte ou plutôt du concepteur du projet. Généralement, c'est la faute des clients aussi, qui navigue à tout vent. Il part 2-3 semaines, après il revient et dit, je vis chez mon ami, on a fait ceci. Je vis chez l'autre, on a fait cela. Mais lorsqu'on revient, on remet en cause les plans déjà établis, cela suppose que ça entraîne beaucoup de conséquences. Il y a l'arrêt des travaux. Il y a les coûts incidentiels du projet. Et cela peut faire en sorte qu'au lieu de finir le projet dans les délais, au lieu de le finir avec une certaine qualité, au lieu de finir le projet avec un coût prédéterminé au départ, on risque d'aller au-delà. Donc c'est généralement ça qui cause problème. Donc la faute est beaucoup plus du côté des clients, qui doit savoir que non, écoute, on ne peut pas avoir tout à la fois. On ne peut pas avoir une maison qui en même temps c'est une maison à l'étage, qui en même temps c'est une maison qui a la mezzanine, qui en même temps c'est une toiture cachée, et puis chemin faisant c'est une toiture quatre versants. Non, il faut se déterminer, se dire que ok, c'est conclu, on part.
Voilà. Nous avons un autre auditeur en ligne, Jean-Cy Kitoko, il nous appelle de Kikuit. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jeudi. Je profite de cette occasion pour saluer également tous les auditeurs qui sont présents dans Voix sur Okapi, et je salue aussi toute l'équipe d'Okapi Service.
Bien, Jean-Cy, quelle est votre question?
Parfois, on peut aller construire dans un milieu situé sur une pente ou dans un milieu qui, en saison de pluie, cumule beaucoup d'eau. Alors, par rapport au relief, ce milieu-là est dangereux. Et je voudrais que les gens nous disent que faut-il faire pour se protéger, pour protéger les maisons ou la construction par rapport à ce milieu-là. Et, par exemple, lorsqu'il s'agit de construire dans un milieu pareil, il peut, on peut regorger, n'est-ce pas, beaucoup de dangers. Alors, je l'invite, c'est un peu de l'expliciter. Par rapport à ça, que faut-il faire pour se protéger contre des pluies torrentielles ou des érosions, ainsi de suite, contre, disons, généralement, les intempéries qui peuvent démolir la construction. C'était ça ma préoccupation. Merci et bonne continuité d'émission.
Bien. Étienne Mbité, vous êtes à Guémena. Bonjour.
Bonjour, Radio Campus.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Étienne?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue l'invité. Et aussi, par rapport à la pertinence du sujet, Guémena est sous une grande pluie. Et, monsieur le journaliste, vous conviendrez avec moi que les constructions, par exemple, des anarchiques font à ce que, par exemple, ici chez nous à Guémena, quand il y a pluie comme ça, il y a toujours des dégâts très énormes que laisse la pluie. Mais je pense que, bon, malheureusement que maintenant, là, la radio Capi ne fonctionne pas. Je ne vous suis qu'à travers les téléphones. Donc, si l'invité pouvait, pour corroborer même avec ce que mon professeur a dit là, quelles sont les mesures préventives que les gens, la population peuvent prendre, surtout quant à la construction, surtout pour éviter des dégâts matériels, et surtout quand il pleuve.
Voilà, surtout quand il pleut. Bien, désolé, il n'est plus en ligne, on l'a perdu. Deschanganou, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Oui, les deux auditeurs ont abordé leurs préoccupations presque dans le même sens. Ils demandent quelles sont les précautions à prendre pour lutter contre les pluies torrentielles, tout ça. En fait, je ne voudrais pas conseiller aux usagers de maison, aux habitants, de se lancer dans la débrouillardise, c'est-à-dire commencer à mettre du sable dans des sachets, dans des sacs, pour pouvoir arrêter une érosion par ici, ou pouvoir planter des choses, tout ça. Je ne voudrais pas, ça c'est de la débrouillardise.
Oui.
Vous savez au départ, qu'est-ce qui se passe lorsque l'État se lance dans la construction des cités, des villes, il est censé prévoir les ouvrages d'assainissement. Qui dit ouvrage d'assainissement voit la canalisation, voit les infrastructures routières, voit tout ce qui accompagne une bonne urbanisation. Mais malheureusement, la plupart de nos cités, la plupart de nos villes sont construites sans ouvrage d'assainissement. Et la conséquence, c'est quoi? Nous sommes dans une région tropicale où nous connaissons des pluies torrentielles, ou plutôt des pluies qui commencent du matin jusqu'au soir. Alors, ce genre de pluie, lorsque ça ne rencontre pas, en fait, une canalisation, un assainissement approprié, l'eau, c'est un agent corrosif très dangereux. Il va se comporter de manière sauvage. Il va attaquer les maisons, et c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Dans nos cités, dans nos villes, nous sommes en train de vivre une croissance des têtes d'érosion, c'est-à-dire que chaque année, au lieu que les têtes d'érosion diminuent, mais ça augmente plutôt. C'est-à-dire que nous avons là un État, je m'excuse le terme, qui n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités, qui n'est pas en mesure de sécuriser les habitants. Là, c'est en amont. Et en aval, il y a aussi des populations, chacun dans le souci de se faire propriétaire d'une parcelle, va construire n'importe où, va construire même dans des régions que j'ai tout à l'heure appelé des non-édificandises, les régions sur lesquelles on ne peut pas construire des maisons d'habitation. Et lorsque les pluies pareilles arrivent, tous les quartiers sont dévastés et nous sommes en train de vivre du jour au jour. Alors demandez maintenant à un habitant, plutôt à des quartiers tout entiers, de se mobiliser pour pouvoir faire le travail que l'État est censé faire ou devra faire en amont. Je pense que je ne suis pas ici pour vouloir, en tout cas, encourager ces arts de pratique. Il faut se conformer à la loi, il faut voir, avant de pouvoir acheter une parcelle, se rassurer si réellement on achète à une zone, on achète un lotissement déterminé pour accueillir les villas, les maisons d'habitation, ou plutôt on est en train de construire ailleurs que l'endroit fixé. Il faut aussi que l'État, en aval, prenne sa responsabilité avant de pouvoir permettre aux gens d'occuper les maisons qu'on assainisse, qu'il y ait des ouvrages d'assainissement, des canalisations, des infrastructures. Alors là, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de placer les citoyens dans de bonnes conditions pour pouvoir vivre et vivre sa vie décemment.
Voilà. Quelles précautions prendre pour construire pendant la saison de pluie? Chongandou, architecte, est notre invité. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Quelles précautions prendre pour construire pendant la saison sèche? Deschongandou nous a dit tout à l'heure que construire pendant saison sèche est beaucoup plus avantageux parce que les matériaux de construction coûtent moins cher. On peut trouver facilement du sable par rapport à la saison des pluies, mais s'il faut construire en saison des pluies, éviter surtout les terrains marécageux. Mais il y a certaines personnes, même si elles ont l'information que c'est un terrain marécageux, mais elles se disent, c'est une occasion, hein, je viens de trouver un terrain, bon, j'y vais, je peux quand même construire et rester là-bas, mais les conséquences vont toujours à venir plus tard, comme l'a dit notre invité. Nous allons accueillir Gentil Lumanou qui nous appelle des Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité du show.
On vous écoute, Gentil.
En tout cas, ce sujet est très intéressant pour nous, les conspirateurs. Alors, j'aimerais directement passer à la question pour demander à notre vitesse. Il peut nous donner la distance et l'auteur où on peut construire une maison. On peut construire une maison avec quelle distance, avec quelle hauteur. Parce que vous voyez, les gens qui construisent des petites maisons, et pendant la saison sèche-là, avec des chalets, là, ça chauffe. Alors, notre invité peut nous éclairer, il peut nous donner distance, largeur et l'auteur où on peut construire une maison. Merci, c'est gentil, Manuatana.
Bien, Deschongandou.
Oui, merci à l'auditeur pour sa préoccupation. Là, il m'amène sur une autre dimension, c'est-à-dire il veut connaître s'il y a des normes, ou plutôt s'il y a des principes, des mesures préétablies pour une maison, soit un étage, une maison plein pied, tout ça en fait. C'est beaucoup plus complexe la réponse que je voudrais donner s'il faut entrer en détail. Mais s'il y a des autorisations de bâtir qui sont établies, avant toute construction, et s'il y a des architectes, des ingénieurs pour pouvoir accompagner les gens dans la construction, c'est effectivement pour répondre à cette préoccupation-là. Parce que chaque maison, c'est une entité particulière. Chaque maison, c'est une démarche toute particulière, différente d'une autre. Alors, globalement, il est difficile de donner des principes, mais seulement il doit savoir que s'il a un projet de construire, la première des choses, c'est de voir un architecte, un ingénieur. Et avec lui, la dialectique commence, c'est-à-dire l'échange. C'est ce qui va lui dire que, non, écoute, tu veux une maison, tu veux une chambre à coucher, voilà, une chambre à coucher ne peut pas être une chambre de 2x3, par exemple. Sinon, ça ne fera pas beau vivre. Un salon par excellence ne peut pas avoir cette dimension. Et une maison, pour que l'heure circule normalement, il faut que la hauteur sous plafond puisse être de telle hauteur. Voilà, par rapport à la limite du voisin, il faut laisser autant de marge. Par rapport à l'accès, il faut laisser autant d'espace. Bref, c'est toute une composition, la question qu'il pose. Mmh. La composition ne se résout pas dans une minute ou à travers une émission comme ça. C'est une démarche, c'est un échange, et c'est beaucoup de questions de la part de l'architecte, de l'ingénieur, c'est beaucoup de réponses de la part des clients afin de pouvoir consolider un projet avant de les lancer. Et quand on lance un projet comme ça, on ne se limite pas, soit parce qu'on construit sur un territoire d'autrui, le territoire de l'État. Alors, il faut que l'État aussi jette un coup d'œil sur ce que vous avez mis en place comme projet, afin de donner son approbation, c'est-à-dire de dire que, écoutez, le projet répond aux normes, vous pouvez lancer. D'où l'octroi de l'autorisation des bâtiments.
Voilà, vous avez dit des choses que pendant la saison pluvieuse, les matériaux coûtent un peu plus cher par rapport à la saison sèche. Alors, pour celui qui veut quand même se lancer, alors qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour lancer les travaux et ne pas les voir s'arrêter à quelques temps plus tard?
Oui, ça, c'est-à-dire que selon la durée du projet, vous savez, il y a des projets qui peuvent prendre deux mois, et si on a des moyens, et la saison sèche ici chez nous, ça dépend d'un coin à un autre, varie entre 3 à 4 mois. Donc si vous trouvez que non, vous pouvez tout focaliser pour que dans 3 mois, on puisse vous remettre les clés. Ça, c'est une démarche avec l'architecte. Vous allez vous employer. L'avantage est que durant tous ces temps-là, vous allez effectivement dépenser moins cher. Vous allez gagner en temps parce que pendant la saison sèche, il n'y a aucun jour, en tout cas rarement, il n'y a pas des jours qui sont dérangés par les pluies. Et vous avez plus de chances d'accéder au coût des matériaux à moins cher, même si vous êtes dans le milieu rural. Les routes sont carrossables en saison sèche qu'en saison de pluie. Alors ça offre beaucoup d'avantages du côté des clients, quitte à ce qu'ils mettent beaucoup de moyens pour que durant cette saison-là, et les projets commencent et se terminent. Mais s'il faut aller au-delà de la saison sèche, c'est-à-dire continuer avec les projets jusqu'à 2-3 mois de la saison de pluie, évidemment, il faut prendre les précautions qu'il faut. Là, c'est l'architecte ou l'ingénieur qui va pouvoir, dans le déploiement des chantiers, déterminer, par exemple, l'espace de stockage des matériaux, les ciments, où est-ce qu'on peut les stocker pour que l'humidité ne puisse pas les attaquer, les sables, comment on peut les entreposer pour que même s'il y a la pluie, qu'on ne puisse pas connaître un jour de sans-travail. Et, par exemple, s'il y a des fouilles qui sont inondées par l'eau des pluies, quelles sont les précautions à prendre? Par exemple, disposer d'une motopompe pour pouvoir évacuer l'eau et les refouler à une très longue distance par rapport au chantier. Bref, c'est tout un tas de techniques de mise en œuvre que l'architecte est en train de déployer et l'ingénieur pour aider les clients à commencer et finir la réalisation.
Donc, on va terminer avec la question de Kelly, de Louena. Bonjour.
Bonjour, la radio Capi.
On vous écoute, Kelly.
Merci pour la parole. Je salue d'abord l'invité et puis j'aimerais d'abord poser une seule question.
Quelle est la question?
Oui, la question est de savoir s'il faut construire quand on a un projet et maintenant que l'on fait une fondation, il faut combien de temps pour que le mur soit soulevé, la durée de la fondation pour que le mur soit soulevé? C'est ça la question que je devrais poser.
Merci. Deschong à nous.
Oui, il n'y a pas de temps mort entre la fin de la fondation et le début de l'élévation. Ça, ce sont des stéréotypes que les Belges nous ont laissés et ils ont légués à nos anciens contremaîtres. Aujourd'hui ont tendance à faire voir aux gens que non, entre la fin de la fondation et le début de l'élévation, il faut que la fondation s'engircisse, il faut laisser un temps mort. Non. C'est-à-dire que lorsqu'on place l'ouvrage dans un sol, on a déjà calculé la portance du sol, on a le poids des bâtiments et on sait que ce sol est en mesure de supporter ces bâtiments du début à la fin. Mais s'il n'y a que la fondation qui est là et qui constitue par conséquent, par exemple, le 20% du poids total de l'ouvrage, pourquoi faut-il attendre un temps pour pouvoir faire l'élévation? Il faut enlever ces choses-là dans la tête, il faut se conformer aux techniciens, ils sont à même de vous dire que non, écoutez, on finit, on fait ceci, on fait cela, parce qu'on connaît au finish les poids de l'ouvrage et on connaît au finish aussi, au préalable, le poids du sol qui est appelé à accueillir l'ouvrage. Donc, il n'y a pas de répit dans la construction lorsqu'on a des moyens. On peut construire et commencer, finir sans arrêt.
Voilà, on peut commencer et finir. Donc, tout dépend des moyens que l'on dispose pour mener à bien son projet de construction. Deschong Gandou, nous vous disons merci pour toutes ces informations et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jody.